Et vous? Quelles initiatives existantes, quelles expériences ici, échouées, quelles tendances vous pouvez observer sur votre territoire?
Non, c'est juste donner une expérience réussie.
Dis qui tu es pour que...
Oui, donc je travaille à Région Nouvelle-Aquitaine, ex-région Limousin. Et la région Limousin avait lancé une initiative d'un emprunt obligataire auprès de la population pour financer des projets locaux. Ça a été... ça a dépassé nos espérances puisque en 3 semaines, on a récolté, bon ça paraît peut-être dérisoire à l'échelle de la France, mais on a récolté 15 millions d'euros qui ont été doublés. Ensuite, on avait mis des fonds européens, des fonds fédéraux pour abonder également. Et du coup, voilà, ça a été un succès qu'on n'espérait pas parce qu'on s'est rendu compte que les gens avaient envie effectivement de savoir où allait leur argent et ils étaient prêts. Et donc je rebondis par rapport à ce qu'a dit M. Klein ce matin, il disait je crois pas trop, enfin il parlait du crowdfunding, mais quelque part on n'est pas très loin. Il n'y croyait pas parce que le risque était du coup porté par trop important et porté par les citoyens. Mais il y a aussi l'aspect, on cherche une autre motivation que le gain et on est prêt quelque part à perdre de l'argent. Pour financer des projets qu'on connaît. Je pense que ça, c'est important aussi.
Oui, dès qu'on propose, en fait, on n'est pas obligé de proposer que des choses risquées, mais tout à fait, ça c'est vrai, des emprunts. Donc, c'est un emprunt qui était émis par qui, en fait? Par la région?
Par la région.
Oui, donc il y avait quand même, du coup, c'est pas hyper risqué non plus, je pense. Donc ça c'est quand même une garantie.
Là sur ce cas-là, il n'y avait pas de risque. Voilà. Effectivement, ceux qui ont souscrit n'avaient aucun risque.
Mais ils n'avaient pas beaucoup de rentabilité, par contre.
Il y avait très peu de rentabilité. Puis je me permets, comme j'ai le micro, de reboucler avec ce qui a été dit hier sur quelqu'un évoquait la Creuse et Business Angel. J'avais envie d'intervenir dessus parce que justement, ce fonds qui s'appelle Dynalim, il permet justement de financer des projets qui sont portés par Business Angel et notamment en Creuse.
Comme quoi il se passe plein de choses en Creuse, c'est ça.
Oui. Pascal Pinet, donc. Je suis en région Occitanie, donc moi je m'occupe notamment de tout ce qui est lié à aux énergies renouvelables. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, beaucoup de financements participatifs et autres, notamment des appels à projets du type un nombre citoyen, un nombre région. On a aussi une agence qui fait du coup d'investissement en capital pour les projets. Mais donc voilà, donc moi je suis aussi enthousiaste que vous. Jusqu'à ce matin, je me demande ce qu'a dit M. Klein, parce que à côté complètement engagé par la région, on décide aussi à l'émergence de projets communs citoyens sur le territoire qui vont cofinancer des projets à risque. Et c'est bien d'avoir l'enthousiasme au début, mais c'est sur la durée, parce que si effectivement après les gens perdent de l'argent, c'est
bien sûr. Voilà.
Donc ce matin, M. Klein nous a dit oui, moi je crois pas à ce modèle parce que ça pense que c'est la figure aux États-Unis, parce que les gens en fait ils perdent de l'argent. Donc comment vous voyez ça, vous, est-ce qu'effectivement, parce qu'il nous a dit, voilà, on a un modèle où il n'y a plus d'intermédiaires, on va directement, ces associations locales, on confinance, voilà, ça. Donc, comment vous voyez ça? Et puis, quelque part, ma question, c'est aussi comment est-ce que la région peut être monter un dispositif qui vienne rassurer, sécuriser ça, pour continuer à ce que ça marche.
Vous avez répondu à la question. En fait, à votre propre question, c'est exactement... En fait, c'est vrai qu'il y a des dérives à nouveau, c'est-à-dire du coup quand on se rend compte que ça marche bien, ça attire beaucoup, ça marche, il y a de l'argent, c'est de l'argent facile souvent. On est complètement dans un dévoiement finalement de l'objectif premier qui était d'aller financer des choses qui avaient du mal à être financées à des conditions adéquates. Mais comme la microfinance, moi j'ai travaillé plus de 10 ans et c'était devenu un marché archi lucratif. Évidemment, quand on prête à 25%, c'est super, hein. C'était des rendements mais surréalistes, quoi. Mais, sauf qu'au final, on a vu après toutes les dérives qu'il y a eu. Pour répondre à votre question sur le crowdfunding et ses modèles alternatifs, je crois que si on ne perd pas du tout ce qu'on est en train de financer et qu'on a du coup le modèle adéquat, on ne va pas risquer d'attirer n'importe comment des gens et aller financer n'importe quoi. C'est-à-dire, la dérive qu'on observe aux États-Unis, c'est parce que. Et qu'on observe des fois en France, hein, sur des plateformes de crowdfunding qui ont fait du prêt aux entreprises, où on montre comme ça, en 4 minutes, 150 000 euros de prêt à 8% sur une PME et que ça lui prendra trois fois moins de temps d'aller voir la banque parce que du coup... mais en fait, on analyse mal le coût du risque encore. En fait, on n'analyse pas bien le coût du risque. On pense qu'on a l'info, puis on l'a pas, en fait. On remet dans des moulinettes qui sont pas les bonnes les projets, des projets qui, du coup, ont plus rien d'important à financer ou inutile à financer, quoi. Aller financer un projet... Le but, c'est pas d'aller financer tous les projets qui n'arrivent pas à trouver des financements. Il y a des projets pour lesquels c'est bien de dire non. Si on est en développement exponentiel. Donc, pour répondre à votre question, c'est là où il faut aller. La désintermédiation, pour moi, elle a cette vertu d'avoir une vertu pédagogique, c'est-à-dire de faire comprendre aux citoyens comment le circuit financier fonctionne. Ça a permis de déjargoniser, de désexpertiser, enfin, de se rendre compte qu'en fait, l'argent, c'était une matière qu'on pouvait... Enfin, le circuit financier, c'était quelque chose sur lequel on pouvait aussi avoir une certaine forme d'emprise. Ça, je trouve que ça a été quelque chose de très positif. Après, si on est là uniquement quand on achète des bitcoins en pensant qu'on va faire de l'argent facile sans regarder ce qu'il y a derrière, eh ben, c'est la porte à la dérive. Donc pour moi, ce qui est important, c'est à nouveau là-dedans, c'est-à-dire c'est que la région, justement, ou des organismes dans lesquels on garde une certaine confiance et responsabilité, puissent d'une certaine façon labelliser, pas forcément avec un label officiel, mais en tout cas coopter ou cautionner ou contribuer à des initiatives un peu plus privées. Et là, la région a absolument toute sa place à contrôler, j'ai envie de dire, par la connaissance de ce qui est fait, par des reportings réguliers, et puis surtout monter des dispositifs de garantie, là où du coup la région, avec sans doute des montants bien inférieurs que ce qui peut être collecté sous forme de ressources d'épargne ou d'investissement, va apporter une forme de sécurité, du coup, le levier, en fait. Une notion que j'ai pas beaucoup développée ici, c'est l'effet de levier. C'est-à-dire, du coup, avec 1 euro mis par la région, bon, 1 pour 1, du coup, ça fait, c'est bien, ça fait 50%, mais avec des mécanismes de garantie, on peut faire 1 pour 10, quoi. Là, ça devient intéressant. Et on a la confiance qui est apportée par la région sur un dispositif qu'elle a un petit peu plus maîtrisé. Ça, pour moi, c'est une très bonne complémentarité, par exemple. Je réfléchis à des exemples, ça va me venir, mais je veux dire, il y a des exemples où justement on essaye de solliciter la région pour que, où la région par exemple abonde des fonds garantis qui vont être gérés par France Active, qui est quand même un peu le spécialiste, c'est vrai, de la question, pour des activités plus innovantes. Les fonds comme l'ITA, je pense à eux ou d'autres, peuvent aussi aller chercher du coup, essayer de monter des dispositifs de garantie pour des fonds propres, ce qui n'est pas très classique, mais qui permettent justement du coup de dire, bah voilà, on a de la ressource citoyenne, mais il faut qu'on puisse avoir de la garantie pour augmenter encore le potentiel, quoi.
Question là-bas.
Oui, Yann Toro, la salle, la ville de Lille. Une partie du désespoir de la matinée était liée au constat d'un caractère un peu inéluctable de la financiarisation mondialisée et de quelque chose de monstre glouton qui phagocyte tous les secteurs de la société. C'est ce qui a été présenté en Suisse avec ce modèle des patrons entrepreneurs, mais on a l'impression que toutes les sphères de la société qui essayent de s'organiser pour préserver un modèle ou pour faire exister un nouveau modèle, il y a le lien avec la financiarisation qui absorbe ça, qui capte la valeur et qui déplace le centre de décision. Finalement, il y a toujours un moment où ça finit par échapper. Alors, on peut imaginer que certains modèles, comme la création de monnaie locale, permettent de couper le lien, finalement, avec le monde financier, comme ont pu l'être les tentatives d'économie locale à travers les phalanstères ou le mouvement des coopérateurs. Aujourd'hui, comment vous anticipez ce lien, ce risque de vous faire bouffer tout cru et de disparaître, comme l'ont fait déjà un certain nombre d'acteurs du commerce équitable, de la finance solidaire mondialisée, et de devenir un produit financier comme un autre, avec une valeur à la hausse, à la baisse, et de devenir un produit dérivé comme un autre.
un peu dur votre question, mais effectivement, c'est à nouveau, c'est ce que j'avais observé. Je me souviens quand la microfinance s'est beaucoup développée, qu'il y a eu des produits structurés de marché, donc avec de la dette junior, de la dette mezzanine, de la dette. On était dans plein dans le produit structuré, archi classique, où on ne sait plus dans quoi on investit, puisque le risque est complètement coupé. Il y avait cette espèce de mode génial, et c'était une nouvelle classe d'actifs, la microfinance. Moi, je me battais contre ça en disant non, c'est pas une nouvelle classe d'actifs en fait. Si on perd de vue ce pourquoi ça a eu lieu, alors effectivement, on a perdu et on est phagocyté par la financiarisation. Là, du coup, ce qui est important peut-être aussi, c'est d'aller s'assurer que les produits financiers qui sont créés intègrent dans leur conception ou dans leur gestion ou co-gestion des acteurs qui seront garants un petit peu d'une forme d'utilité sociale et d'intérêt général. Moi, je crois beaucoup à la co-conception, à la co-création des produits avec un réseau associatif ou autre, enfin, en tout cas un réseau qui va être garant de la sélection des projets qu'elle va soumettre au financement du produit ou du gestionnaire peut-être qui va être capable d'aller soulever les fonds. C'est un peu, pour moi, c'est l'éducation, hein. C'est pour ça que j'ai mis un peu la partie éducation, pratiquage, mais enfin surtout éducation, sur laquelle j'ai peut-être pas encore beaucoup insisté là. Je sais que ça peut être utopique, mais je crois qu'il faut à un moment sortir uniquement de la partie purement technique et revenir à quelque chose qui est le fondement même de notre compréhension de long terme, en fait, qui est que si on n'a pas compréhension qu'en fait on va dans le mur en se laissant phagocyter de cette façon-là, eh ben voilà, il faut des dirigeants, il faut des gens qui comprennent l'intérêt de pas foncer tête baissée dans ces produits-là, et ça c'est que par une forme d'éducation, de pédagogie qu'on y arrive. Par ailleurs, je sais que ça semble un peu mésonnance, mais je crois aussi que la nature a à nouveau horreur du vide, et donc on n'évite pas les mouvements, c'est des mouvements ondulatoires encore, voilà, ça, il y a de la dérive, c'est vrai. Mais là où il y a de la dérive, il y a de la contraction, phénomène qui est que, comme on a pu le voir là, les gens tout d'un coup peuvent aussi monter des projets qui viennent, au contraire, être à l'opposé de ce qu'on peut observer. Et on est dans un monde très financiarisé, pour autant, on n'a jamais vu autant d'initiatives citoyennes et de financement citoyen. Après, si vous voulez, ça se développe toujours beaucoup plus vite sur une partie peut-être un peu en dérive, hein, mais ça n'empêche pas que du coup, les volumes aujourd'hui dont dispose la finance solidaire ou la finance alternative sont nettement supérieurs à ce qu'ils étaient il y a 15 ans, 20 ans. Moi, quand j'ai commencé, c'était... et encore, j'étais pas parmi les premières, mais je veux dire... C'était un truc que personne d'abord connaissait, on n'entendait pas parler, et aujourd'hui, il y a réellement une ressource qui est 100 fois plus importante qu'elle l'était. Donc, c'est plutôt là-dessus qu'ensuite, il faut mettre son énergie, et puis se dire que le problème, c'est de l'éducation et de la régulation. C'est-à-dire que là, typiquement, sur les plateformes de financement, le régulateur était peut-être... on en parlait à la différence législateur-régulateur, mais même le régulateur, des fois, est un peu pris de court. Et donc il faut être capable aussi de fournir quelque part des éléments qui permettent de donner des règles de développement pour pas permettre tout et n'importe quoi. Là il y a une responsabilité aussi, je pense, du régulateur de pas laisser n'importe quoi se développer, quoi.
Il y a un micro là-bas, non?
Oui, oui.
Il y a deux micros,
alors choisissez.
Je m'appelle Sylvain Paulet, je travaille pour la société du Grand Paris et qui a construit un métro autour de Paris. J'ai plusieurs questions en réalité, une observation d'emblée, comme ça peut-être très caricaturale, et vous pardonnerez.
Moi je pardonne.
J'ai parfois l'impression que finalement, plus c'est petit, plus c'est compliqué. C'est-à-dire que un des trucs un peu terrorisants de ce matin, c'était que finalement apprécier la capacité d'intervention sur une grosse entreprise, ça tenait en deux critères de rentabilité, etc. Là, on sent que la batterie, la grille d'analyse du projet va être particulièrement relevée. Il y a un nombre d'acteurs qui est significatif. Et en fait, ça fait presque peur, quoi, de s'engager dans une démarche pareille. Bon, du coup, je perçois que l'ingénierie à déployer est importante, et je me demande finalement tout simplement à la fin si le produit est compétitif par rapport à d'autres types de produits bancaires. Quel type de conditions on pouvait offrir ? C'est le premier aspect de la question, clairement. Tant que j'ai le micro, pour faire le lien entre la grande photo de ce matin et la photo plus locale de cet après-midi, est-ce qu'il n'y a pas un lien ça peut pas introduire le sujet par ailleurs, mais il y a une dynamique assez forte du marché green, de l'investissement social responsable sur les marchés obligataires en particulier. Dans quelle mesure est-ce que pour vous ça peut être un driver du développement d'activités plus locales comme ça? Quels sont les biais que vous percevez encore? Comment vous sentez la dynamique un peu plus globale sur ce nouveau type de produit?
En fait, vous mettez le doigt, vous mettez le doigt sur le fait qu'effectivement, plus c'est petit, des fois plus c'est compliqué et donc plus c'est cher. Après, la liste des opérateurs, ça passe pas par tous les opérateurs pour être financé. C'est évidemment au choix, avec chacun des spécificités. Ça donne un peu une notion fouille, mais c'est un vrai problème, ça. Vous avez complètement raison. C'est un constat qui est fait, c'est ce que je disais. C'est des silos, ça manque de connaissances, ça manque d'interconnexions. Le nombre de retours qu'on avait soit des entrepreneurs eux-mêmes, soit justement même des banquiers qui disaient ouais mais c'est tellement compliqué, on ne peut pas mettre ça en place quoi. Enfin, coordonnez-vous, il faut une visibilité, sauf que justement quand on va vers quelque chose qui nécessite en fait un peu de compréhension, il faut qu'on aille vers une proximité qui par essence ne peut pas être généralisée ou standardisée. Comprendre sur un territoire, le marché de la pierre bleue du Hainaut, effectivement, on ne fait pas de Paris ou de Montpellier. Quoi. Pour répondre à votre question, en fait, à nouveau, il ne s'agit pas de généraliser ce dispositif à tout. Il s'agit de comprendre que sur cette portion congrue, la zone grise, qui représente peut-être quoi 10-15% max, on va dire, je pense, de l'activité économique d'un territoire. Mais cette portion, elle a l'air marginale. Mais si on ne la finance pas, en fait, elle a un poids dans la cohésion sociale qui est nettement supérieur à son poids économique. C'est ce qui permet à une société, à un territoire, de faire cohésion aussi. Donc d'une certaine façon, et c'est aussi souvent d'ailleurs un terreau d'innovation et d'exemplarité qui fait que je vous donne un exemple. Je suis directeur d'une très grosse société et je suis président d'une association de quartier. Enfin, ça arrive très souvent, en fait. On voit ça dans le Crédit Coopératif ou ailleurs, souvent. Il y en a une, elle fait un business dingue, l'autre, rien du tout. Mais en fait, pour moi, à titre personnel, l'importance de mon activité associative, elle dépasse largement le poids que représente l'économie, que représente réellement cette association qui aide ou qui fait de la publicisation, je ne sais pas. Finalement, dans le monde un petit peu de la finance solidaire, de l'économie sociale et solidaire, on est aussi un petit peu dans ce rapport, un peu disproportionné, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il y a une valeur d'exemplarité d'une part, qui fait que si on ne prend pas en compte suffisamment certains secteurs qui sont exclus spontanément, on perd une vraie forme de cohésion. Et en fait, c'est pas juste 10% qu'on perd, c'est qu'on va déliter en fait une vraie forme d'interaction importante, quoi. La complexité que ça représente pour ces 10-15%, elle vaut la peine en fait. C'est un investissement qui dépasse son poids réel, parce que c'est toujours pareil. Si on le fait sur un axe, si on le projette uniquement sur l'axe financier de base, on a l'impression qu'on perd de l'argent. Si on est capable de représenter, d'où l'importance des indicateurs économiques ou de mesures d'impact, bon là je laisserai la main à des économistes plus, plus compétents, mais si on est capable d'inclure des axes beaucoup plus complexes dans la projection qu'on fait de la valeur ajoutée ou de l'impact qu'ont ces financements, on se rendra compte qu'à un niveau socio-économique, si on a les bons indicateurs, ils ont un impact bien supérieur à leur rentabilité financière classique. Et c'est là l'enjeu, en fait. Par rapport, finalement, à vos... C'est pour ça que ça ne peut pas être fait que par des acteurs privés, que ça ne peut pas être fait que par des acteurs publics, et qu'on a une interconnexion des deux qui est absolument nécessaire, quoi. Sur l'engouement qu'on a effectivement sur des produits green, machin, etc., ça c'est effectivement très bien. Pour moi, l'articulation, elle se fait à nouveau. C'est-à-dire, j'aime bien des fois ces fonds 90-10, parce que ils vont avoir 90% qui vont pouvoir être gérés sur des gros projets d'envergure, des gros parcs écologiques, d'énergie, etc. Et puis, l'intérêt, c'est d'être capable de dire bah, peut-être une petite partie, 5 à 10% pareil, de tout ce qui va être collecté, on va le réserver à des projets innovants, spécifiques de territoire. Donc on a une forme de péréquation, finalement, à nouveau, dans la rentabilité. On va être capable de prendre un risque qui va être absorbé potentiellement par l'assise mieux maîtrisée en fait, qu'on a sur des projets beaucoup plus gros. Moi, je crois qu'il faut articuler, en fait, possiblement, cet engouement-là avec le fait de dire « Ah !» Ça, je l'ai observé, par exemple, sur le livret « Troisième révolution industrielle » pour vous dire les entreprises qui étaient financées par le Crédit Coopératif, certes, c'était des entreprises de la transition énergétique, mais c'était des entreprises qui étaient financées un peu classiquement par le Crédit Coopératif sur son activité classique de transition énergétique. Et puis, on avait monté qu'une partie de la ressource allait être étudiée et financée par des entreprises qui seraient vraiment innovantes, avec certains critères beaucoup plus avancés, et que ce serait fait par la caisse solidaire. Et bien, en fait, on s'est rendu compte, à chaque manifestation publique où on parlait du livret, enfin bon, moi c'était quelque chose, ça m'avait intéressé, que les questions qui étaient posées par les épargnants, c'était « Ah, est-ce que vous financez des petites entreprises en création? Est-ce que vous allez financer ça et ça et ça ?» Et c'est ça qui, finalement, convainquait leur geste d'épargne. Donc il y avait quelque chose, finalement, qui était conforme sur la majeure partie du financement, sur des valeurs, mais finalement, ce qui allait emporter la décision, c'était qu'il allait y avoir quelque chose qui était proche de chez eux, qu'ils allaient comprendre, qu'ils allaient voir. Donc, à mon sens, s'il y a quelque chose à faire, c'est à nouveau d'encourager la création ou l'entrisme un petit peu dans ces fonds-là pour aller dire « Utilisons ça parce que ça va pérenniser, ça va vous différencier dans un monde qui devient très concurrentiel d'ailleurs pour ce genre de produits. Ceux qui vont être capables d'apporter un peu un complément d'engagement vont faire la différence.
Entrisme donc, ou contrainte?
Les deux, mon capitaine. Il faut jouer sur les deux tableaux. Quoi. La contrainte marche aussi. Hein. Donc, faut pas hésiter. C'est là où, à mon sens, les actions de lobby, de réglementation sur le législateur, elles fonctionnent. Hein. C'est parce qu'il y a eu la loi Fabius sur l'épargne solidaire que ça a commencé un petit peu à décoller. C'est parce que ça a pu être rendu obligatoire sur les PE que l'épargne solidaire salariale s'est grandement développée. On voit vraiment des paliers à partir du moment où on rend obligatoire quelque chose. Donc oui, moi je suis très favorable à ce que la réglementation, enfin que la contrainte soit utilisée, ça ne me dérange pas du tout là-dessus.
Voilà plutôt en tant qu'ancien de la Caisse des dépôts, avec une observation et une question d'observation, c'est vous faisiez le lien entre capital social, capital culturel et capital économique, enfin financier, je trouve que c'était intéressant.
Humain, ouais, social et...
Pardon ?
Humain, social et financier. Ouais, enfin, bon, culturel aussi.
Ouais, c'est le fait que pour augmenter la profondeur du marché, il fallait aussi accompagner, enfin, en tout cas c'est comme ça que j'ai compris, et ça fait écho à une observation personnelle, accompagner les porteurs de projets, parce que c'est des gens qui n'ont pas forcément des difficultés, enfin, qui n'ont pas un projet moins solide, mais à qui manque peut-être quelque chose, et ça pose la question d'ingénierie à moi. J'en parle en tant qu'ancien de la Caisse des dépôts, parce que c'est posé la question au moment où il a fallu élargir le prêt aux collectivités locales, de quels étaient les prêts qui étaient éligibles, enfin quels étaient les projets qui étaient éligibles, et si les projets n'étaient pas éligibles tout de suite, est-ce que c'est pas parce qu'ils étaient pas
assez formalisés
ou alors qu'ils n'étaient pas arrivés à une masse critique, qu'on n'avait pas forcément trouvé le sujet. J'en parle maintenant 2 ans plus tard, parce qu'à l'époque c'était sur des sujets de centre-ville. Maintenant le sujet a pris une actualité politique, mais cette ingénierie à mots, il a fallu la créer en interne. Et ça peut venir de l'extérieur, ça peut venir de l'interne. Est-ce que les banques, quelle que soit leur taille, sont prêtes à le faire? Est-ce que ça ne peut passer que par une incitation extérieure, qu'elle soit économique, fiscale, institutionnelle? Enfin, est-ce que se poser à la caisse, se pose, je l'imagine, dans d'autres institutions, la question de savoir si c'est le métier du banquier? Alors ça n'est pas si on considère qu'on est sur un marché donné, mais si on veut étendre le marché, oui, ça devient le métier du banquier.
Oui, c'est vrai.
Donc ça, c'est mon observation qui est une demi-question, et ma vraie question qui est... On n'a pas parlé. J'aurais été intéressé d'avoir votre impression sur les monnaies locales, qui sont un peu à la mode depuis quelques années. Ouais. Avec, moi, personnellement, je trouve un intérêt social direct, parce qu'il y a un côté lien au territoire, du consommateur, de l'acteur. Mais quel est l'intérêt économique et financier? Est-ce que ça a vraiment... Ça crée de la valeur, vraiment de la monnaie, ou c'est juste un truc de marketing territorial qui marche bien, mais qui finalement, c'est juste un canal pour faire passer une valeur qui serait passée autrement?
En fait, sur la partie, est-ce que c'est le métier, l'accompagnement, il y a tellement de choses à dire, mais l'accompagnement, c'est central, c'est certain, parce que c'est l'investissement qui permettra de révéler la valeur de nous, en fait. Et c'est vrai qu'en fait, sur ces projets un peu exclus, c'est pas que un problème, c'est souvent un problème de d'accompagnement à faire un peu émerger le projet qui était peut-être pas encore bien formalisé, qui à ce stade était peut-être normal que le banquier l'évacue, parce qu'il n'avait pas les éléments qui lui permettaient de dire ok, j'y crois pas. Donc tout ce travail d'accompagnement en amont, de formalisation, de questionnement, etc., qui fait qu'on se forme à être un chef d'entreprise, c'est un investissement qui, effectivement, ne peut pas toujours être pris par les banques, en charge par les banques, et c'est pour ça que les réseaux d'accompagnement, dans cette mission-là, pour moi, une partie doit être prise en charge, assumée par des outils comme, par la Caisse des dépôts, ou par une collectivité, pourquoi pas, ou par du... de bonification, etc. Mais la banque, en fait, on se rend compte, là, je l'ai cité très rapidement, mais il y a des banques qui développent des actions d'accompagnement sur lesquelles elles vont essayer de trouver du partenariat avec du financement public, justement. Elles prennent à leur charge, elles ne le financent pas intégralement, mais elles estiment que cette partie de leur mission, c'est vrai que les banques coopératives, souvent d'ailleurs, ont un peu plus cette mission-là sur le territoire, des fois d'accompagnement à la gestion de budget sur les publics plus fragiles, mais sur la partie entreprise, parcours confiance, des prêts de création sont pris en charge par certaines banques coopératives. Sur les monnaies locales, alors ça c'est pareil, ça a l'air très intéressant, c'est pas très convaincant sur les résultats aujourd'hui, et c'est moins qu'on puisse dire. Il y a indéniablement une valeur effectivement de marketing territorial qui a son intérêt, ça je dis pas le contraire. Alors, il y en a une qui sort un peu du lot, qui était celle de Lechco au Pays Basque. Ouais, je ne sais pas si vous connaissez.
On va en parler. Alors, c'est bien que d'ailleurs, on va en parler en octobre, et on aura aussi une intervention de Jérôme Blanc sur les
podcasts.
Mais ça sera en octobre, donc vous
pouvez. Bon, je fais un teasing. Lechco, en fait, du coup, nous on a travaillé pas mal du coup avec le Pays Basque, et on s'est rendu compte, ils avaient fait une étude du coup sur cette monnaie qui est devenue qui a vraiment très très bien marché. Donc, communautaire très très fort, et ce dont ils se sont rendu compte, parce qu'ils ont regardé, c'est que ça a créé des liens économiques entre des entreprises, entre entreprises en B2B qui sinon ce serait pas fait. Ils ont fait des questionnaires pour dire est-ce que vous auriez fait du business avec des personnes sinon, et en fait ils se sont rendu compte que ça a créé des flux d'affaires entre entrepreneurs. Bon, ça reste peut-être un peu marginal, mais du coup c'était une façon de mesurer que oui, la monnaie locale avait du coup fait connaître un certain nombre de partenaires potentiels sur le territoire que sinon ils ne connaissaient pas. Pareil sans doute sur le B2C, du coup avec le côté consommateur, quand on a une liste d'entreprises et qu'on veut absolument faire passer en priorité les entreprises qui utilisent Lechco, ça crée un peu un flux d'affaires. C'est peut-être plus difficile de le quantifier, mais en tout cas eux, je me souviens aux dernières nouvelles, donc c'était il y a 2 ans, il y avait un effet mesurable sur l'augmentation de l'activité.
Et après, c'est Frédéric qui conclura cette
séquence. Je demande ça. Stéphane Chalinier, pour l'IMM, on a développé, c'est un témoignage en fait, mais on a développé... dans une réflexion d'accompagnement des entreprises, notamment sur le financement de l'immatériel, pour des entreprises industrielles qui sont très habituées à faire financer, de fait, ce qui est une forme très tangible que sont leurs actifs, tout un dispositif avec le crédit coopératif. Et pourquoi je parle de ça, c'est que je pense que ça a eu comme vertu de reposer la question de l'éducation, vous l'évoquiez, de la régulation et de la temporalité. C'est-à-dire que, en termes d'éducation, finalement, on a eu des industriels qui, par des comités d'agrément, de dossiers qui leur ont été présentés, avaient une analyse, bien sûr, industrielle, mais quasi bancaire. C'est une vertu éducative, parce que là où ils couinaient après tous les banquiers qui ne leur finançaient pas leur projet, ils étaient en posture de banquier, quasi-banquier. Mm-hmm. Et c'est extrêmement intéressant, parce que finalement, ils étaient en capacité... là, de fait, c'était leur engagement moral. Pour autant qu'on avait mis de l'argent dans une caisse de garantie, nous, avec l'argent, des mêmes industriels. Sur le côté de la régulation, en cela, c'était éducatif aussi, parce que du coup, c'est la capacité... pouvoir dire qu'un projet industriel, eh ben, il est peut-être pas bon, du point de vue, et qu'il était refusable. Voilà. Et puis, sur la temporalité, ben, finalement, c'est ce que tout à l'heure était évoqué avec les petites opérations, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a eu beaucoup de taux d'échec. Il y a eu beaucoup de taux d'échec parce que finalement, le process mis en œuvre, il était trop long. C'est-à-dire que finalement, à un moment, le chef d'entreprise, dans tout notre process à nous, de première instruction, comité d'agrément, puis analyse financière avec la banque, crédit coopératif, etc., était sur une temporalité qui n'était pas synchrone avec le besoin du chef d'entreprise. Alors, c'est aussi mal tombé parce qu'on finançait de l'immatériel en croissance à un moment où est arrivée la crise financière et où finalement ils avaient plus besoin de matériel pour faire démarrer, et avec un coût du crédit qui était supérieur en prêt participatif, puisqu'il n'y avait pas de garantie pour chaque entreprise, et que le taux du marché chez son banquier était inférieur. Donc il y avait une sorte de paradoxe. Mais finalement, moi, ce que j'y trouverais comme bénéfice, c'est la mise en action locale d'acteurs qui sont engagés financièrement à leur niveau, dans leur collectif, leur capacité à comprendre les contraintes qui pèsent à l'analyse, finalement, d'un projet. Et puis le caractère aussi effet levier, c'est-à-dire qu'au-delà des sommes elles-mêmes qui étaient apportées, comment ces sommes-là pouvaient servir aux porteurs de projets d'aller se prévaloir de cela auprès d'autres acteurs pour un effet levier. Donc voilà, il y a des initiatives comme ça de territoire avec des industriels qui fonctionnent. Alors c'est pas... ce sont pas des centaines de dossiers par an, mais...
améliorable, fonctionne. Mais alors, enfin, figurez-vous, dans les projets innovants que j'ai fait au Crédit Coopératif, il y avait celui de lui-même, donc je suis très contente d'avoir son tour. Pour autant, je suis aussi très consciente qu'on peut avoir des très bonnes idées si elles sont mal mises en œuvre. Bah, la preuve en est que du coup, la temporalité n'était pas la bonne. En complément, juste pour vous dire, je me souviens qu'il y avait le dispositif d'avance remboursable qui avait été développé par le Crédit Coopératif et l'Union Régionale des SCOP, différentes unions régionales de SCOP, qui était aussi du coup de pouvoir faire des avances individuel en fait à des personnes qui reprenaient leur entreprise sous forme de SCOP, de société coopérative, donc c'est un super dispositif dans le concept. Il était mis en œuvre une telle usine à gaz par le Crédit Coopératif, je le dis vraiment sans tabou, que il a fait pchit, quoi. Il a fait pchit, c'était horrible, et en fait, quand j'étais à la questionnaire, je me suis dit, bon, bah voilà, le process, il est fondamental aussi, c'est dans la bonne temporalité. C'était juste avant de partir, mais on a réussi à mettre en place, du coup, à redéfinir tout le process, à faire quelque chose d'extrêmement rapide avec l'Union régionale des SCOP qui traitait les dossiers, et du coup, c'était beaucoup plus efficace. Et voilà, et du coup, bon, le diable est dans le détail, hein, ça on le sait bien, mais c'est particulièrement vrai quand on a des choses un peu complexes, comme vous disiez aussi, monsieur, c'est-à-dire plus c'est atypique et plus il faut faire attention à l'opérationnel. Et ça passe par, du coup, mais je suis très contente de vous entendre dire que la partie finalement de compréhension des contraintes et la dynamique que ça a lancée finalement perdure, parce que c'est ça qui est important. Quand je disais faire des formations complémentaires, en fait, c'est aussi que les banquiers puissent aller dans les fédérations et comprennent aussi quel est le besoin, et réciproquement, qu'on comprenne qu'est-ce qu'attend un banquier en termes de risque pour pouvoir éventuellement même faire des propositions qui vont faire passer plus facilement dans les départements de risque l'analyse du besoin. C'est les deux.
Alors, en dernière question, très bien, donc Frédéric Lui de la SMA BTP, donc une expérience et une question. En fait, en tant qu'assureur, effectivement, sur vos planches relatives à tout ce qui était notion d'aléa et de prise de risque, je suis évidemment très sensible, puisque notre métier, c'est de prendre du risque. Et évidemment, l'assureur, nous, on travaille beaucoup en mode compréhension et bonne compréhension de nos clients. Donc, en cela, on partage effectivement le même intérêt que le banquier. On travaille beaucoup dans ce qu'on appelle la normalisation du risque aussi, c'est-à-dire des conditions pour la mise en œuvre des garanties, et évidemment derrière énormément sur les sujets de prévention, pour faire en sorte qu'on ait des assurés qui évoluent dans des structures les plus pérennes possibles. D'où ma petite expérience, il se trouve que dans le cadre de ma formation initiale, donc il y a plus de 25 ans, j'ai été amené à travailler en Écosse dans ce qui pourrait être l'équivalent d'une chambre de commerce, on va dire, dans une structure, dans un département de cette chambre de commerce qui, justement, avait vocation à aider les bonnes idées à se transformer en entreprise. Et je me souviens très bien que cette chambre de commerce était la somme de compétences, hein, évidemment, du marketing commercial, de gestion et autres, et que tout passait par là, toute initiative était canalisée par ce dispositif qui... disait finalement aux jeunes impétrants, bah, mûris ton projet, on va t'accompagner sur la partie gestion et études de marché. Hein. Et puis finalement, quand on en arrivait à la décision que son projet était viable, rentrait évidemment la question du financement. Et dans ce cas-là, dans ce concept-là, les banquiers étaient très très, on va dire, facilitateurs et bienveillants, parce qu'ils savaient que tout le travail préparatoire nécessaire avait été fait et mûri avant. D'où ma question, en fait, sur ce que vous appeliez tout à l'heure les réseaux d'accompagnement à la création d'entreprise en France. Ma question, je voudrais avoir votre sentiment sur sont-ils assez nombreux, sont-ils assez efficaces, et qu'est-ce qu'on peut faire pour finalement les améliorer?
Ils sont pas... on n'en a jamais trop. non, bien sûr, votre question, elle boucle un peu avec le fait qu'on est dans une vraie complémentarité et qui, du coup, facilite ensuite le circuit d'obtention du crédit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut se rendre compte de leur intérêt, à nouveau, pour que chacun prenne sa part dans le financement de ces activités-là. C'est-à-dire, on sait ce qui s'est passé sur les chambres de commerce il n'y a pas longtemps, ça a été un peu quand même l'hécatombe. Du coup, forcément, on peut imaginer que les activités qui ne rapportent pas le plus, eh ben, c'est celles qui sautent en premier, notamment celles-ci. Je ne dis pas que c'est ce qui est arrivé, mais enfin bon, quand même, oui. Tournons pas autour du pot. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est, moi, je crois que plus on arrivera, et c'est là, il y a peut-être aussi un travail à nouveau des économistes, des chercheurs, et puis après d'organisation un peu du secteur lui-même, et d'honnêteté aussi de la part des banques, de reconnaître l'apport que ça représente. C'est pas ça qui va les faire survivre, hein, on est d'accord. Mais c'est un facteur de différenciation à nouveau. Donc, j'aimerais qu'on arrive un petit peu à mettre en évidence ce que j'appelle l'impact, peut-être pas forcément le bon terme, mais en tout cas la valeur ajoutée que représentent ces activités d'accompagnement dans le financement et donc dans l'économie, parce que on n'est jamais à l'abri qu'en plus une de ces activités devienne un champion de vin, quoi. Mais au-delà de ça, voilà de l'anecdote. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pousser à tous les niveaux, au niveau de local et au niveau national, pour que le financement soit pérennisé, quoi. Je crois qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'alternative à inclure cette activité-là comme un intérêt, comme une mission, en fait, d'utilité sociale, un intérêt général qui doit continuer à être financé avec une partie de la ressource. Et par ailleurs, je crois aussi que du coup, c'est pareil, il faut avoir un peu de courage, parfois, dans la négociation avec les banques, quand elles en ont les moyens, et elles peuvent en avoir les moyens, d'exiger, en fait, une rémunération, ou en tout cas, un mécénat qui permettra la prise en compte de ces activités. Parce qu'il y a des problématiques fiscales. Après, si on est dans la rémunération, il y a peut-être des requalifications ensuite en prestataire de services bancaires. Mais je veux dire, je crois vraiment que souvent, on manque, dans ce secteur de la finance solidaire, de l'économie sociale, de compréhension, pas du rapport de force, mais en tout cas de la vraie valeur que représentent ces activités au sens large. Et là, je compte un peu, moi, des fois un peu plus, peut-être sur les économistes, les statisticiens, la Banque de France, pour être capable de sortir des études qui démontrent l'importance que ça a à un niveau global. Enfin, voilà, il y a peut-être un peu ce travail. Il y a des travaux en lien avec les universités, les recherches et les chercheurs pour arriver à démontrer ce type de d'impact. Mais le travail doit être poursuivi. Quoi.
Je rebondis tout de suite juste là-dessus, et après je prends un gros risque par rapport à ce que m'a dit Sandra de faire en F. Mais sur le besoin d'économiste, il se trouve que je fais une anecdote personnelle. Je pars de l'INSEE en 2004 et j'arrive à la direction générale du Trésor et des politiques économiques sur un poste qui a été créé pour moi et qui disparaît après moi, qui est au sein du bureau des politiques sociales, le suivi et l'accompagnement des quartiers, de la politique de la ville. On est au moment où se discute le plan Borloo et je me souviens que j'ai discuté avec le directeur à l'époque de la prévision. La création du bureau. Alors, c'est le sous-directeur qui m'invite et qui me dit si tu arrives à démontrer qu'il y a un intérêt pour le pays économique à s'occuper des quartiers politiques de la ville, je pense que tu as le poste. Et il faut le créer. Et donc, je me suis lancé dans une évaluation macroéconomique des impacts du non-traitement des quartiers politiques de la ville avec des analyses en termes de croissance potentielle. Sauf à considérer que les gamins de ces quartiers sont plus cons que les autres, ça veut dire que toutes les entreprises qu'on ne crée pas, tous les bacs qu'on ne passe pas, tout, c'est autant de trucs de réussite à côté desquels on est passé. Donc en fait, à chiffrer en termes de points de PIB, de croissance potentielle. Quoi. Mais de fait, j'ai obtenu, visiblement, ça a été convaincant parce que le directeur de l'Ordre a choisi de créer le poste. Visiblement pas suffisamment parce que dès que je suis parti, le poste a été supprimé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a véritablement besoin de ce genre de travail-là. Quand on a candidaté récemment dans le cadre de Réinventer Paris pour le rachat de l'ancien immeuble de la préfecture à Morlan, un projet à 220 millions d'euros, l'argument qu'on a posé, on l'a perdu face à des fonds privés massifs, où on est en structure coopérative. Et de fait, on a passé 6 mois en plus du montage du projet, donc regrouper toute une coopérative d'acteurs de l'économie sociale et solidaire pour créer une capacité d'endettement de racheter un immeuble de 120 millions. Mais on a passé 6 mois derrière, en parallèle, avec des économistes, à essayer de chiffrer comment est-ce que, en structurant des boucles locales, en circuit court, on arrivait à générer de surplus de valeur ajoutée. Le problème, ce boulot-là n'est pas fait. On n'a pas d'outils. Le deuxième, c'est que on n'a aucun élément d'évaluation et aucun indicateur qui permette de renvoyer vers qu'est-ce que c'est que le surplus social généré quand on remet en circulation des gamins, ou pas des gamins d'ailleurs, qui sont en situation d'exclusion complète. Le coût social évité ou simplement le bénéfice social de leur réinsertion, il n'y a pas d'indicateur pour les chiffrer. Alors, ça renvoie à un travail qu'on est en train de faire à Lille, avec la métropole européenne de Lille, dans le cadre de la candidature pour le projet TIGA. La commande qu'on a reçue, c'est de dire, on a le pressentiment que notre modèle de développement, on a réussi à sortir Lille de l'ornière avec 2004, 2004, etc. Mais que le modèle de développement, attractivité, cadre sup, il n'est pas durable. C'est-à-dire qu'y compris politiquement, il commence à poser des petits problèmes. Il y a des endroits qui se sentent complètement exclus et on est en train de travailler avec les habitants à l'écriture d'une charte du développement. Donc, quels sont pour les habitants les critères qui feraient dire que le développement va dans le bon sens? Avec les philosophes et les économistes, traduire ces idées de qu'est-ce que ce serait bien vivre dans ce territoire-là en indicateurs chiffrés et statistiques, et par ailleurs avec les porteurs de projets, à voir dans quelle mesure est-ce que on requalifie, on fait bouger les projets de manière à ce qu'ils se conforment à cette charte. Alors, en fait, ça suppose de créer des espaces dans lesquels
des économistes, des financiers, parce que pour le coup, il faut sortir les centaines de milliers ou les millions d'euros qui permettent de faire au moins les premiers tours de table, plus les habitants viennent. Donc ouais, c'est des processus complexes, mais je dirais l'alternative, c'est quoi? C'est les gilets jaunes dans la rue, quoi. C'est-à-dire que c'est là où je commence le long des tours. Elle n'écoute pas. Parce que sinon, si elle avait écouté, elle aurait arraché le micro. Non, c'est... En fait, on a parlé tout à l'heure de Thatcher et Reagan. En fait, à quoi renvoie l'idéologie libérale? Elle renvoie à une approche, une philosophie politique qui remonte au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, qui renvoie à la question de, une fois qu'on a enlevé le droit divin pour le roi, une fois qu'on a enlevé Dieu comme principe d'organisation morale dans la société, comment on évite que ce soit la guerre de tous contre tous? Et est-ce qu'on a ou pas des indicateurs ou des règles minimes qui nous permettent d'imaginer que les humains laissés seuls face à eux-mêmes vont pas foutre l'espèce en l'air, en gros? Et il se trouve que progressivement, par les détours et l'histoire de la pensée, on en vient au fait que l'écriture de la théorie de l'équilibre général s'impose l'idée que la concurrence libre, non faussée, est le principe minimal qui permet au moins de garantir ça. Il y en a d'autres principes d'organisation de la société, sauf qu'ils n'ont pas réussi à développer la puissance d'analyse, la puissance de conviction et les garanties nécessaires pour assurer que ça permette des sociétés à peu près stables. Fort de ça, on a eu ce qu'on assiste depuis 30 à 40 ans. C'est-à-dire que l'idée d'émancipation de l'individu, elle a été uniquement investie, je dirais, par les porteurs de cette approche idéologique-là de l'organisation de nos sociétés. Et à côté, il n'y a que dalle qui tiennent la route comme projet d'émancipation. Et la question à laquelle on est confronté aujourd'hui, c'est à travers notamment, donc, je dis la crise des gilets jaunes, mais on la voit avec le Brexit, il y a un retour en force de cette contrainte de base de toute règle économique, parce qu'en amont de la concurrence pure et parfaite, il y a une règle qui est jamais écrite, il y a une règle qui est jamais écrite dans les modèles, parce qu'en fait c'est l'hypothèse de départ qu'on considère qu'elle est acquise. C'est la règle de participation, c'est le contrat social. On considère que le contrat social n'est pas remis en question. Ce à quoi on assiste aujourd'hui quand on écoute ce qui se passe dans la rue, quand on regarde ce qui se passe dans les votes, c'est que les gens disent « le contrat social en tant que tel, moi, je ne participe plus à une société qui fait ça ». Donc à ce moment-là, la question qui se pose, c'est à quelles conditions et comment est-ce que la violence de cette remise en question, de cette menace sur le contrat social, est perçue comme suffisamment puissante pour amener ceux qui sont en situation de bénéficier de tous ces éléments-là à se poser, à changer leur façon d'agir. Ça renvoie à deux choses. La première, c'est est-ce que ou pas les classes moyennes, les majorités silencieuses mais potentiellement agissantes des sociétés occidentales rentrent dans un jeu de construction et de réflexion et de travail sur comment est-ce que les actions de chacun gagnent en éthique ou bougent ou changent. Et parfois, ça tient à pas grand-chose. Hein. Je vous montrais hier l'extrait, le teaser sur le crédit coopératif. Je le montrais hier soir, l'intégralité de l'enquête la présidence et la direction générale du crédit coopératif. Ce qui les a frappés, c'est à quel point dans la première question d'entretien, on pose la question de si je vous dis argent et les jeunes Français sont, mais ils tirent à boulet rouge sur le système, si je vous dis banque, ils disent mais c'est notre partenaire de développement. Donc c'est pas le système est tout bon ou il est tout pourri. Les gens sont tous en recherche d'institutions, d'appui, de réinvention. Donc il ne faut pas être binaire dans cette histoire-là. Et Et le deuxième point, je l'ai oublié, donc Sandra va être très contente. Mais donc, non, non, c'est tout ça, et le, oui, le deuxième point, la deuxième option, enfin la deuxième question, c'est dans quelle mesure, pour reprendre les termes du bouquin de Bruno Latour, dans quelle mesure est-ce que on a une course en avant et une sécession de ceux qui sont en situation de direction, de dirigeant, le petit, je ne parle pas des 5%, des 10%, des 1% ou des 1 pour 1000 dont on a parlé hier avec Olivier Gauchot. Je parle des 1 pour 10 000, 1 pour 100 000, 1 pour 1 million, qui ont de fait, objectivement, les moyens d'y échapper ou peuvent penser y échapper, eux, leurs enfants et leurs petits-enfants. Et après, c'est trop loin pour qu'ils y réfléchissent. Et donc, cette question de la sécession des élites globales se pose aussi. Parce qu'il y a une concentration de moyens qui permet de... Et je voulais juste terminer par un truc. Tu as beaucoup insisté, moi, je trouve, à raison, sur la question de l'accompagnement. On en a parlé là aussi à plusieurs reprises. C'est quelque chose qui est fondamental, c'est-à-dire que dans le développement économique des territoires, à nouveau nourri par, je pense, une bonne partie de la littérature économique, de sciences économiques, l'idée qu'il y a un état naturel du monde. Il n'y a pas d'état naturel du monde. Le monde, il se construit. De la même manière qu'il n'y a pas d'état naturel des capacités des individus. Les capacités, elles se construisent. Quand je travaillais à Bercy, on avait des discussions systématiques avec les collègues du logement social sur la question de l'assurance, la garantie des risques locatifs, sur le mode vous allez faire des irresponsables. Et on voyait très très bien que le taux d'impayés chez les bailleurs qui faisaient de l'accompagnement social et le taux d'impayés chez les bailleurs qui n'en faisaient pas était divisé par 10. Parce que, en fait, en accompagnant, on prévient, on suit.
Et t'as ton indicateur là.
Non, mais de la même manière, oui, enfin, on peut prendre des questions d'alphabétisation, on peut prendre des questions de consommation de terre, il y a plein d'indicateurs sur les modèles de développement auxquels on peut réfléchir. Mais sur la question de l'accompagnement, c'est trop facile de dire les jeunes de banlieue ne sont pas capables de construire un business plan correct. Non, enfin, il y a des idées hallucinantes à côté desquelles on passe. Quand je vois que la BPI est systématiquement sous-investie à Seine-Saint-Denis, je me dis, mais c'est hallucinant, on passe à côté d'une... Moi, j'y bosse en permanence dans ces territoires-là, c'est une pépite. L'Île-de-France et la France a une pépite avec la Seine-Saint-Denis. Mmh. On a des gamins, dont les parents, les grands-parents, de toute la planète, qui sont formés, qui ont une énergie débordante, et il se trouve qu'ils bénéficient du soutien de l'environnement public. Je ne parle même pas des subventions. Parce que ce que j'observe par ailleurs, et c'est ça qui renvoie au rôle du public et au rôle des banques, c'est que s'ils sont suffisamment bien accompagnés, il n'y a pas besoin de subventions. Parce qu'il y a besoin de subventions quand les projets sont pas rentables. Et à la rigueur, on pourrait se demander l'intérêt de subventionner les projets. Si les projets sont pas rentables, il faut les arrêter. Il y a des projets pas rentables, il faut arrêter. En revanche, on doit pouvoir subventionner l'accompagnement du projet et sa maturation jusqu'à le rendre rentable. Et quand il est rentable, il faut arrêter. Ou alors, c'est pas de la subvention, c'est de l'investissement. C'est autre chose. Mais c'est aux banques d'investir derrière. Comment est-ce qu'on le met? Et comment on construit des partenariats avec le monde bancaire, alors que le monde bancaire se vit souvent à côté? Il doit être embarqué dedans. Il y a vraiment une maturation culturelle à faire très profonde, quoi, sur le temps et sur la construction de l'action collective.
Cette question de la culture, elle est fondamentale, enfin, des cultures, des pratiques, finalement, parce que c'est elle qui fera changer les choses. Deux initiatives intéressantes, effectivement, l'ADI est parmi ceux qui ont le plus travaillé sur les indicateurs, justement, de coûts évités. Donc ça peut être une piste. Je crois de toute façon que quand on parle de culture de changement, c'est vraiment dans l'éducation qu'on a au sens large, dans l'enseignement supérieur, et dans les théories mainstream qui sont mes camarades de promo de NCE, moi, ma conscience, elle s'est faite à ce moment-là qu'on était à côté de la plaque dans la façon dont c'était enseigné. Malheureusement, on n'avait pas conscience que les hypothèses contenaient le modèle et les conclusions qu'elles ont portées. Donc il y a un travail là, et une pointe d'espoir, parce que j'étais là pour apporter l'espoir. Récemment, il y a eu... sais pas si vous avez suivi un manifeste en fait des étudiants des grandes écoles sur la transition écologique. C'est un début, mais il y a presque, je crois, 29 ou 30 000 signatures. C'est peut-être une goutte d'eau, mais pour moi, c'est un signal faible qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que, du coup, les élites de demain, les dirigeants de demain commencent à prendre conscience qu'ils ont, ils ont un moyen d'action sur le modèle de demain.
Je m'arrêterai là-dessus, du coup.
Merci beaucoup.